Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et là, je suis actuellement du côté de Blagnac. D'ailleurs, il se peut qu'on entende les avions passer de temps en temps. Un petit quartier dans lequel se trouve un bâtiment très original qui est en fait un entrepôt, l'entrepôt de électriciens du monde. Et je suis dans leur bureau et nous allons présenter cette association avec les membres du bureau. Messieurs, bonjour.
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 Donc, est-ce que vous pouvez me dire un peu quelle est l'origine, comment s'est construit Électricien du Monde, parce que ce nom est un peu intriguant, et à quoi ça sert?
Donc, Électricien du Monde, c'est une association qu'on a créée il y a maintenant 27 ans. Au départ, c'était un petit groupe de copains qui, suite à des événements, en fin de compte, ont décidé d'essayer de faire quelque chose à travers leur métier. Donc, le slogan d'Électricien du Monde, c'est « La solidarité par le métier ». Et d'entrée, ben, on a essayé de voir comment on pouvait aider des populations autant locales qu'à l'international à travers notre métier.
Votre métier d'électricien, donc c'est a priori de remettre en fonction des appareils ou des situations compliquées dans certains pays, pays en guerre peut-être, ou pays qui ont subi des dommages, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, on va remonter peut-être un peu plus loin. Au départ, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire et on a commencé surtout avec du local. On a essayé d'aider des associations sur le plan local à travers des fils rouges. C'était de l'alphabétisation, c'était des dangers de l'électricité, c'était ce qu'on appelle les éco-gestes, comment faire des économies d'énergie. Et petit à petit, ben, on s'est orienté vers l'international pour aider des associations, car le cœur de notre association, c'est d'aider d'autres associations. C'est une association, la nôtre, qui ne s'adresse pas au grand public, je veux dire, qui s'adresse à des associations qui ont des besoins en énergie.
Donc, une association a un besoin en énergie, elle frappe à votre porte directement, elle vient vous voir?
Oui, tout à fait, elle nous exprime ses besoins. On essaie d'analyser avec eux quelle est la finalité de leur association, quelle est leur zone d'influence, et on essaie à partir de ça de voir si on peut leur être utile ou pas. Notre but, c'est surtout de ne pas être en concurrence par rapport à des électriciens installés, que ce soit localement ou que ce soit dans d'autres pays. Notre but, c'est d'apporter notre savoir-faire à ces associations, aussi bien dans le dimensionnement des installations que dans la réalisation, que dans l'expertise que l'on peut avoir pour réceptionner une installation qui a été réalisée ailleurs ou alors une installation qui doit être modifiée. Donc, on essaie de faire partager notre savoir-faire dans ces différents domaines.
Ce qui veut donc dire que vous avez quand même certaines missions, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour installer un restaurant sur place, il y a une autre intention derrière.
Oui, chaque fois qu'on décide d'aider une association, il faut qu'il y ait des retombées sur les populations aux alentours. Il faut qu'il y ait une aide, il faut qu'il y ait des retombées sur les populations locales. Non, notre but, c'est vraiment d'aider les populations à travers les associations. Donc, par exemple, à l'international, soit c'est des dispensaires ou des écoles. C'est des associations qui gèrent des dispensaires ou qui gèrent des écoles et qui nous demandent déjà une expertise sur leur installation et comment ils pourraient alimenter ce fameux dispensaire ou cette école. Des fois, c'est simplement comment baisser leur consommation. Ou dans certains cas, c'est des sites isolés. Et là, il faut complètement revoir les choses avec du solaire, avec des groupes, etc.
Mais pour ça, il faut du personnel, il faut des moyens, il faut des outils, il faut du matériel. Comment vous faites?
Oui, en effet, il faut, en plus du savoir-faire, il faut aussi avoir du monde disponible, du monde qui sache pratiquer, qui sache diagnostiquer. Et il faut aussi du matériel. Du matériel, ça, actuellement, il n'y a pas trop de difficultés pour trouver du matériel, puisque il y a du matériel qui est en permanence rénové ou mis à disposition de notre association. C'est du matériel qui est fourni par différentes entreprises présentes sur la place toulousaine. Et nous essayons, à partir de ce matériel qui est souvent à rénover, de l'adapter aux besoins que l'on a ou que les associations ont.
Donc à chaque fois, vous récupérez ce matériel qui vous est donné par combien d'entreprises qui vous donnent du matériel?
Oh, actuellement, je pense qu'il y en a bien une trentaine d'entreprises diverses qui nous donnent. Ça peut être des petites entreprises. Il n'y a pas longtemps, par exemple, c'était une entreprise qui rénovait une installation solaire. Ils démontaient les anciens panneaux, ils en ont mis de nouveaux plus puissants, ils nous ont donné donc peut-être une cinquantaine, soixantaine de panneaux. Voilà, c'est ce genre de choses.
Vous récupérez du matériel qui vous est donné, mis à disposition en fait pour vos projets. Donc les gens viennent ici, proposent leur projet, vous l'analysez, vous vérifiez si ce projet correspond à votre mission qui est surtout d'aider les populations locales à avoir des retombées locales. Ensuite, vous regardez si ce projet vous intéresse, vous le prenez. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Ensuite, la première chose à faire, c'est vraiment de bien analyser les besoins. Parce que l'association qui va venir nous rencontrer, des fois, elle a une idée assez approximative de ses besoins. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord d'examiner exactement les besoins en énergie ou ses différents besoins. Des fois, c'est des besoins d'arrosage ou de mise à disposition d'eau pour les populations locales. En général, ça tourne autour de l'énergie. Savoir quelle est la puissance nécessaire, à quel moment de la journée ils en ont besoin, comment ils vont financer ces différentes énergies. Soit ce sont des groupes électrogènes dans les endroits très isolés, en Afrique en particulier. Et là, comment ils vont faire pour payer le carburant? Si ce sont des panneaux solaires ou des installations autres, comment sera fait l'entretien? Qui c'est qui va financer l'entretien? Est-ce que les locaux vont participer justement à l'entretien de ce matériel? Est-ce que ça sera l'occasion pour nous? Et c'est en général ce que l'on cherche, de faire du transfert de technologie, c'est-à-dire que les populations locales puissent intervenir elles-mêmes et entretenir elles-mêmes le matériel qu'on met à leur disposition. Donc, dans chaque intervention, dans chaque mise en place de projet, dans chaque réalisation de projet, on insiste beaucoup pour que les populations locales puissent intervenir et surtout savoir entretenir l'installation par la suite, pour qu'il y ait une grande pérennité de l'installation, parce que c'est facile de mettre une installation et au bout de quelques années, elle est plus efficace. Et là, on aurait l'impression de faire du travail pour rien.
Donc, vous analysez, vous faites l'étude du projet. Et ensuite, sur le plan de l'organisation, comment ça se passe? Il y a un chef de projet qui est nommé. Comment vous gérez ça?
Alors, on a une organisation très spéciale. En fin de compte, le bureau, c'est-à-dire 3 ou 4 personnes, reçoit l'association, analyse le projet. Et à partir du moment où on va dire « on y va sur ce projet-là », nous, on va nommer un chef de projet. Ce chef de projet, c'est quelqu'un de l'association. Et ce chef de projet, ben, c'est lui qui va réaliser ce projet, qui va l'accompagner de A à Z. On va lui fournir, nous, le bureau, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens humains pour réaliser son projet. Mais ça sera lui le patron. On est une quarantaine dans l'association. Et donc, comme on a énormément de projets, ben, pratiquement tout le monde est chef d'un projet. Mais ce n'est pas parce qu'on est chef d'un projet qu'on n'est pas ouvrier d'un autre projet. L'avantage de faire ce système, c'est qu'on intéresse beaucoup plus les gens aux différents projets. Tout le monde a l'impression d'être très utile.
Depuis tout à l'heure, on parle projet, on parle demande, mais alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples d'endroits sur lesquels vous êtes intervenu, ce que vous avez fait sur place?
Alors, on va prendre un exemple tout simple, pas très ancien, mais qui a maintenant peut-être une dizaine d'années. On va parler de la fac du Mirail. Jean Jaurès, ben là, on avait été mis en contact avec les responsables techniques, comme quoi on pouvait récupérer du matériel. Alors, comment ça s'était passé? Ben, quelques temps avant, il y avait une commission de sécurité qui était passée et qui avait demandé à la fac du Mirail de se mettre aux normes. Autrement, il est menacé de fermer la fac. Cette mise aux normes avait été faite. Donc, les entreprises qui avaient mis ça aux normes avaient tiré de ce qu'on appelle le chemin de câbles et des câbles en aérien, en fin de compte, dans les différentes salles et autres. Donc, 2 ou 3 ans après, ben, les bâtiments ont été détruits. Ça avait coûté relativement cher. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a proposé de récupérer tout ce matériel sur plusieurs jours. Donc, pendant une semaine, ben, on y a été à une quinzaine de personnes et on a récupéré des quantités faramineuses de câbles, de petits disjoncteurs, d'appareils comme ça, qui étaient voués normalement à destruction au départ. Et quelques temps après, ben, on avait été mis en contact au départ par les Restos du Cœur. Et les Restos du Cœur, ils avaient un nouveau centre de distribution à l'entrée de Saint-Aurès. Et donc, on a réutilisé le matériel qu'on avait récupéré pour alimenter ce centre de distribution des Restos du Cœur. Quelques 2 ans après, on a eu une mission en Afrique sur un orphelinat. Et là aussi, on a pris ce matériel et on l'a employé sur place dans cet orphelinat. Voilà un peu notre façon de travailler.
C'est des projets qui sont passés en France, qui sont passés en Afrique. Vous vous déplacez dans de nombreux pays dans le monde ?
Oui, nous intervenons en Afrique, c'est vrai. Nous intervenons au Cameroun, au Sénégal. Nous venons de revenir du Togo aussi pour du diagnostic. Et nous intervenons aussi en France, puisque les besoins sont aussi en France. D'ailleurs, notre première action, quand on a créé l'association, c'était de faire de l'alphabétisation au niveau de la zone du Mirail. Et le thème, c'était tout ce qui tournait autour de l'électricité. Et à travers tous ces thèmes autour de l'électricité, les gens s'intéressaient via ce thème et on faisait de l'alphabétisation le soir.
Vous intervenez régulièrement donc sur ces différents centres. On parle du Mirail pour récupérer le matériel, mais il n'y a pas que le Mirail. Il y a plein d'autres entreprises qui vous donnent du matériel obsolète. Vous intervenez sur des zones très spécifiques. Comment ça se passe aussi pratiquement? C'est-à-dire que vous avez décidé de faire le projet. Ensuite, j'imagine, un tremblement de terre quelque part, une inondation ou quelqu'un qui a un projet peut-être. Vous dépêchez du personnel sur place.
Alors, il faut voir qu'on est une petite structure. On ne va pas intervenir sur un tremblement de terre ou sur des inondations. On n'est qu'une quarantaine. 90% de notre effectif, c'est des retraités en plus. Donc, non, on n'a pas la possibilité, nous, d'intervenir dans des situations d'urgence à ce niveau-là. À une époque, si on a fait une intervention en urgence, c'est vrai, au moment d'AZF, de l'explosion d'AZF, on avait été mandaté, en fin de compte, par la ville de Toulouse pour mettre hors eau, en fin de compte, certains appartements et certains immeubles de la route de Seyss, mais autrement, non, une intervention d'urgence, on ne peut pas le faire. On n'a pas les moyens de le faire.
Alors, à chaque fois, quand même, vous vous rendez sur place. Vous avez fait l'étude, les gens sont venus vous voir, vous avez analysé le projet, vous avez le matériel, vous avez préparé tout ça. Il faut que vous alliez sur place pour pouvoir le mettre en œuvre et, comme vous disiez, former le personnel aussi.
Oui, tout à fait. Nous intervenons toujours sur place. D'abord pour compléter l'analyse et pour se rassurer par rapport à l'analyse qu'on a pu faire au départ. Et sur place, il y a toujours les particularités du pays. Quand nous intervenons en Afrique, il y a parfois certains écarts par rapport à des pratiques que l'on pourrait avoir en France, surtout au niveau de la sécurité. Nous, on intervient toujours dans le domaine de la sécurité, c'est un peu notre culture. Et des fois sur place, on est obligé de faire en sorte que les règles de sécurité que nous souhaitons soient respectées. Bien sûr, quand on intervient sur place, on essaie d'avoir, quand on parle, tout le matériel et on s'adapte au maximum à ce que l'on trouve sur place. Et notre but, c'est de réaliser quelque chose qui soit toujours opérationnel. Et quand on investit sur une mission, on est dans une logique de résultat. Quand on part, il faut que ça marche. Et il faut aussi que ce soit pérenne dans le temps.
Je suis toujours ici à Toulouse, dans les locaux d'électriciens du monde, avec Michel Grassier et Didier Burg, qui sont tous les deux les membres qui ont participé à la fondation de cette association. Aujourd'hui, vous êtes une quarantaine de bénévoles, j'y viens de bénévoles qui travaillaient à l'électriciens du monde. Vous avez des besoins, s'il y en a, ce sont lesquels?
Alors nos besoins, ça serait de s'étoffer en fin de compte un peu plus, parce que des fois on manque un peu de personnel, puis on a un personnel qui est un peu vieillissant vu qu'on a pas mal de retraités. Et après, les besoins, c'est de se faire connaître auprès d'entreprises qui ont du matériel à nous céder. Comme on n'intervient pas auprès de particuliers, on n'a pas besoin forcément de grosses publicités par rapport à Monsieur Tout le Monde, je veux dire. Voilà, c'est surtout des besoins par rapport aux entreprises. À partir du moment où on les rencontre, souvent la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir rentrer dans ces entreprises, d'avoir quelqu'un qui nous fait rentrer dans cette entreprise. Et après, bon, on arrive à lier des liens, à expliquer ce qu'on fait. Et souvent, les chefs d'entreprise sont tout à fait preneurs de ce qu'on fait. Un des exemples, par exemple, c'est depuis quelque temps, on développe quelque chose qu'on appelle la fracture numérique. C'est quoi la fracture numérique? On s'est aperçu que beaucoup de personnes ont des téléphones portables, ils savent très bien s'en servir, soit même mieux que nous. Mais bon, dès qu'il y a des démarches à faire un peu particulières, que ce soit avec la CAF, avec n'importe quelle administration, mais sans un ordinateur, aujourd'hui, c'est très difficile de communiquer, de faire un courrier. Donc, on rentre un peu dans cet objectif-là. Et à travers toujours des associations, on fait des formations, en fin de compte, sur la connaissance informatique. D'une manière enfantine, quoi. Comment marche un ordinateur, comment on fait un courrier, comment on se sert d'Internet. Donc, comme on reçoit du matériel, ben souvent, ce matériel, ensuite, les gens qui ont participé à cette petite formation qui dure souvent juste deux jours, ben, ils repartent avec l'ordinateur, ils repartent, voilà, ils ont de quoi faire.
Et puis, il y a aussi un intérêt, entre guillemets, pour des entreprises qui vous aident. Il y a le petit cancan qui permet aux entreprises d'avoir un retour sur les opérations que vous menez.
Oui, en fin de compte, il y a quelques années, on s'est aperçu que l'une des choses importantes qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait que des petits projets. On n'a jamais de très, très gros projets. On ne va pas électrifier un village, on va électrifier une école, on va électrifier un dispensaire. Donc, c'est des petits projets. Donc, souvent, dans ces petits projets, même localement, il y a souvent que deux ou trois personnes qui prennent part à ce projet. Et on avait un besoin d'information au niveau des gens de l'association de savoir ce qu'on fait. Et on a créé quelque chose qui s'appelait le cancan. C'était juste une page qui explique à chaque fois qu'on a une action. Donc on est parti là-dessus et on s'est rapidement aperçu que les entreprises qui nous donnaient du matériel ou les autres associations étaient intéressées par ce qu'on faisait. Donc on a diffusé ces cancans un peu à tout le monde et actuellement, chaque fois qu'on en fait un, il y a à peu près, je ne sais plus, pratiquement 400 destinataires. Alors ces destinataires, c'est autant la mairie de Toulouse que le chef d'entreprise, que toutes les entreprises qui nous donnent du matériel, que tous les services associatifs avec lesquels on a des conventions avec qui on travaille. Une de nos particularités, c'est que quand on reçoit du matériel, en fin de compte, il rentre dans notre dépôt. Et dès qu'on a une mission, on a un besoin, on va chercher ce matériel, mais on ne sait pas qui c'est qui nous l'a donné. Donc, tous nos partenaires participent à nouveau à cette mission. Donc, ils sont tous partenaires, en fin de compte, de tous nos projets. Et ça leur va très bien, d'ailleurs.
Donc, on est vraiment sur du collaboratif. C'est de la mise en commun pour électriciens du monde. Les gens qui aimeraient avoir plus d'informations sur Électriciens du Monde, les gens qui aimeraient vous rejoindre, les gens qui aimeraient vous donner des choses, ils vont où, ils vont comment, ils vont sur quel support?
Alors pour nous rejoindre, c'est simple. Enfin, le support le plus commun, c'est peut-être Internet. Nous avons un site qui s'appelle Électriciens du Monde, tout simplement. Tous les électriciens du monde au pluriel est tout accroché. Sur ce site, vous allez voir ce que l'on a déjà fait, tous nos projets aussi. Et vous avez aussi dessus certains cancans qui détaille un peu les projets que l'on a déjà réalisés. Pour nous rejoindre, vous avez une notion de contact, un point contact, et vous pouvez ensuite nous contacter. Vous pouvez aussi nous contacter ou venir nous voir si vous voulez avoir davantage de renseignements. Et nous y sommes tous les lundis et tous les vendredis.
Michel Grassier, Didier Burg, merci beaucoup de toutes ces précisions sur Électriciens du Monde. Et écoutez, on souhaite longue vie à votre association. Beaucoup de projets, beaucoup d'assistance. Et puis, si vous avez envie, allez rejoindre Électriciens du Monde, allez voir sur le site internet Électriciens du Monde, tout au pluriel, tout attaché. Et puis, à bientôt.
Oui, à bientôt. Merci.
À bientôt et merci.
Chez vous, au travail ou en voiture, restez à l'écoute de Radio Galaxy. C'est votre radio sur 98.5 FM.